littérature.
Je l'ai pas accablé.
Non, attends une seconde. Cinéma. C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie
ça
une image.
Ça m'avait échappé.
Théâtre. Laissez-moi terminer.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain Masque et la Plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous jeudi dès 19h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter. La différence.
Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet, c'est maintenant.
Vous êtes au courant que je suis à la tête d'une petite fortune? Vous me demandez comment j'ai fait? Ben écoutez, j'ai écouté mon conseiller financier. Sauf qu'avant, j'étais à la tête d'une grosse fortune.
J'ai des idées de commémoration pour France Inter. Alors en août 2012, sur les lieux de l'ancien Veldiv. 11 septembre 2013, en direct de Santiago, du Chili. Avril 1994 à Kigali, Rwanda, pour la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis. 2015, en direct de Phnom Penh, au Cambodge, en mémoire de plus de 2 millions de morts assassinés par les Khmers Rouges. 2018, en direct de Srebrenica, en Yougoslavie. Et 2020, en direct de Wundotni, à la mémoire du peuple Sioux assassiné par les États-Unis d'Amérique. Voilà. À moins que la commémoration soit réservée qu'au 11 septembre 2001 des États-Unis d'Amérique.
Salut toute l'équipe, salut les AMG, c'est Didier de Gaillac. On parle beaucoup de terrorisme en ce moment. Très bon de revenir un peu sur la définition de terrorisme, ça va vous faire rigoler. Terrorisme, ensemble d'actes de violence commis par une organisation pour créer un climat d'insécurité ou renverser le gouvernement établi. Si on parlait un tout petit peu du terrorisme financier, parce que qu'est-ce qu'ils font d'autre en ce moment, les financiers? On parle des banques qui ne prêtent pas, des banques qui ne prêtent plus, mais qui abonde les banques? Sinon, les actionnaires, ceux qui possèdent. Pas les petits actionnaires qui se font tourner et retourner dans la boue par les gros, la poignée de gros actionnaires qui, eux, sont véritablement des terroristes financiers. J'entends ce matin sur France Inter un truc encore pire. Certains traders achètent des médicaments à bas coût pour les revendre sur le marché international à des prix incroyables. Ils spéculent même sur notre santé. Bande d'enfoirés. Allez, bonne journée quand même. Salut.
Au collège Albert Camus de Montbazon en Indre-et-Loire, l'inspecteur d'académie nous a révolutionné les maths. 25 élèves de plus égale 2 classes de moins. Nous voilà donc avec 31 élèves par classe, entassés dans des salles dont les issues sont bloquées par les tables. Certains ne peuvent plus écrire sans se cogner le coude contre une armoire, le rétroprojecteur masque le tableau, on ne peut plus assurer les sorties obligatoires inscrites au programme, et il faut un diplôme de cascadeur pour individualiser notre pédagogie comme le veut notre bon ministre, vu qu'on ne peut plus circuler dans les allées encombrées de cartables. Et pour améliorer la situation, l'inspecteur d'académie nous a proposé, à nous et aux parents présents, un saupoudrage d'heures sup. Et pour nous rassurer, sans doute, il a décidé, là comme ça, de ne plus inscrire aucun élève supplémentaire dans notre collège, même s'il relève du secteur. Plusieurs lotissements doivent être livrés dans le courant de l'année, y compris à Montbazon, à des familles qui vont devoir inscrire leurs enfants dans un autre collège. Mais que sera la vie sans surprise? Et c'est vrai que nous, on se sent hyper rassurés. C'était Cécile, d'Indre-et-Loire.
Tout d'abord, merci d'avoir diffusé notre message jeudi 8 septembre. Pour vous tenir informés, suite au blocus du collège Pierre Bérirou de Saint-Antonin-Nobleval dans le Tarn-et-Garonne et grâce à la mobilisation de tous, parents, associations de parents d'élèves FCPE, habitants, équipes éducatives de la maternelle au collège, élus locaux, maires et adjoints des communes concernées, présidents de la communauté de communes, conseillers généraux des cantons de Quélus et de Saint-Antonin et conseillers régionaux, nos enfants vont pouvoir continuer de bénéficier d'un enseignement de qualité dans un environnement serein avec 3/6 à la place de 2. La solidarité et la cohésion peuvent faire évoluer les choses. Ne l'oubliez pas. Merci.
Salut là-bas, salut les AMG. Donc j'appelle pour réagir à la très bonne émission de Bouche aujourd'hui, qui a notamment bien retranscrit cet esprit de volonté de connaissance et de bidouille qu'il y a dans la communauté du libre, et qui rejoint cette idée de polariès, des usagers maîtres de leurs usages. Mais j'appelle aussi pour donner un renseignement généreux sur ce sujet, c'est l'existence des GUL. Un GUL c'est quoi? C'est un groupe d'utilisateurs de logiciels libres, à l'exemple de Parinux qui était présenté dans le reportage. C'est donc un groupe d'échange et d'entraide autour des logiciels libres qui est ouvert à tous, aussi bien aux débutants et aux curieux qu'aux technophiles et aux militants. Alors pour trouver un GUL près de chez vous, rendez-vous sur le site de la FUL, aful.org, qui donne une liste des GUL francophones dans la rubrique utilisateur. Enfin, une petite remarque sur l'émission, on entend beaucoup parler au cours du reportage de la gratuité des logiciels libres. Mais il faut bien se dire que tout comme la presse indépendante a besoin d'être achetée pour ne pas être vendue, les logiciels libres ont bien besoin d'être financés. Les dons sont donc les bienvenus, que ce soit pour les associations de promotion du logiciel libre, comme l'April ou la FSF, ou bien directement auprès d'un des nombreux projets. D'ailleurs, il y en a encore bien d'autres projets qui n'ont pas été évoqués dans le reportage et qui se rapportent à la culture libre, qui étend le principe des logiciels libres à d'autres domaines. C'est notamment Wikipédia, dans le domaine du savoir, mais aussi OpenStreetMap, dans le domaine des cartes géographiques, Jamendo, dans le domaine de la musique, et bien d'autres encore. Alors Daniel, à quand une autre émission sur le sujet ? C'était Stéphane de Poitiers.
Daniel, bon, il faut que tu nous sortes de ton chapeau le professeur Lordon, là, parce que on rigole, là. C'est assez sympa. On a tous les économistes qui disent exactement le contraire le lendemain de ce qu'ils ont dit la veille. Donc on aimerait bien avoir un économiste qui entendre un économiste qui ne soit pas une girouette, voilà, si c'est possible. Allez vite, le professeur Lordon. Allez, ciao.
Eh ben, j'ai une super bonne nouvelle au sujet du professeur Lordon. Il sera vendredi avec nous en direct depuis la fête de l'humanité. Nous serons en direct, comme chaque année, à la fête de l'UMA. Et Frédéric Lordon sera là avec nous pour répondre aux questions des AMG qui nous feront le plaisir d'assister à cette émission en direct, donc vendredi, 15h, à la fête de l'UMA. Et à la fête de l'UMA, on parlera aussi de Howard Zinn. Vous savez, notre ami, l'historien américain Howard Zinn, qui est décédé en 2010. Et nous faisons, avec Olivier Azam, nous réalisons un film sur Howard Zinn. On en parlera, puisqu'on va lancer une souscription, d'après les émissions que nous avons faites, que vous connaissez, sur Howard Zinn, tout un travail de... sur les entretiens qu'il nous a accordés et avec des archives, etc. Donc ça, on vous en parlera. Mais pourquoi je vous parle de Zinn ? Parce que de Howard Zinn, parce que c'est en lisant son histoire populaire des États-Unis que soudain j'ai trouvé le nom d'une femme, Helen Keller. Helen Keller, au moment où Zinn parle de l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, et où le gouvernement américain, qui voulait absolument faire entrer le pays en guerre, essayait de convaincre les Américains que c'était une bonne idée, ce qui n'était pas du tout au départ l'opinion générale, si bien qu'ils avaient été jusqu'à sanctionner, voire punir ceux qui s'opposaient à cette idée. Et parmi ceux et celles qui s'opposaient à cette idée, il y avait une certaine Helen Keller. Alors j'ai cherché un peu et j'ai trouvé une histoire extraordinaire, celle de cette femme, Helen Keller. Helen Keller était une femme très extraordinaire qui a eu un destin fantastique. Elle était sourde et aveugle. À partir de 19 mois, elle a été frappée par une maladie dans son enfance et elle était devenue... complètement une enfant sauvage. Et puis il y a eu une thérapeute qui est intervenue, qui s'appelait Anne Mansfield Sullivan, et qui a sauvé cet enfant. Et cet enfant, donc Helen Keller, s'est développée, est devenue, a appris à parler, a appris à écrire, a fait des études supérieures, a été diplômée et est devenue une des grandes figures. Un grand personnage de la vie américaine. Donc on s'est penché sur cette histoire avec Inès Leroux et c'est cette histoire invraisemblable, incroyable qu'on va vous raconter aujourd'hui dans la base si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Il y a un an, le 16 septembre, vers 18h, un homme mourait. Militant de toute une vie, écologiste convaincu, faucheur volontaire, défenseur des droits de tous les hommes, altermondialiste et surtout profondément altruiste, Cet homme perdait son dernier combat contre le cancer. Cet homme, c'était Claude Peterman. C'était mon papa. Je sais que ses amis militants écoutent Daniel et je veux leur dire de rester debout, de ne rien lâcher. Je veux aussi leur faire partager ces mots d'Ella Maillard qui sont restés accrochés dans le bureau de papa jusqu'à la fin. Les mauvaises habitudes occidentales, après le missionnaire vient le marchand, après le marchand vient le canon.
Il est 2h30 du matin, je rentre chez moi à Beaugency, dans le Loiret, et je reviens d'une assemblée des indignés d'Orléans. Est-ce que vous saviez que les indignés n'étaient pas encore morts ? J'avais des sérieux doutes et j'ai rencontré, incroyable, une poignée d'indignés d'Orléans et d'Espagne, de la Puerta del Sol qui étaient là. Alors ils organisent une grande marche dont l'objectif est d'arriver à Bruxelles le 8 octobre pour un grand rassemblement devant le Parlement européen. Voilà. Donc, ça me semblait important d'être souligné.
Pour Emmanuel, à main nue. En imaginant son mari pétrissant la pâte à main nue, la boulangère, seule dans son lit, se dit que la vie est mal foutue. Salut.
Bonjour, bonjour. Vous vous rappelez du H1N1, là, le vilain virus qui voulait nous envahir ? Bon, on avait commandé apparemment 94 millions de doses contre le H1N1. Et finalement, on n'en a eu de livrés que 44. Donc il y en a 50 millions qui ont été livrés. Bon, certes, on en a eu donc 44 millions. Sur ces 44 millions, il y a environ 6 millions de personnes qui sont vaccinées à une ou deux doses. Ça fait 12 millions de doses. On en a donné 12 millions et demi à l'OMS et revendu au Qatar et à Monaco, les pauvres, 314 000. Ce qui fait donc 12 millions plus 12 millions 6 plus 300 000, ça fait environ 25 millions de doses qui sont parties sur les 44 millions livrés. Ce qui fait qu'il en reste 19 millions. Il reste 19 millions de doses contre le virus H1N1 qui, dans le protocole, devront être détruites d'ici fin novembre. Ça vaut combien, une dose de vaccin ? Roselyne, tu peux nous éclairer là-dessus ?
Bonjour, c'est Pierre-Yves de Saint-Étienne. Pour faire passer une petite mention spéciale pour monsieur le préfet de la Loire, monsieur Soublet, le préfet de Saint-Étienne, qui a fait fréter un train spécial de la gare de Saint-Étienne pour le centre de rétention de Saint-Exupéry à Lyon avec des Roms. Bon élève, monsieur Soublet. Vraiment un bon élève de la classe à Sarkozy. Vraiment, j'ai honte. J'ai honte pour lui. Honte à vous, monsieur le préfet. Honte à vous.
Camarades, les bourses s'effondrent, mais le repère de là-bas si j'y suis de Clermont-Ferrand ne fléchit pas. Nous débutons notre 4e saison ce jeudi 15 septembre à 18h au Baroque Café. À vous y voir.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Inès Léraud, Hélène Keller, sourde, muette et rebelle.
Flight number 2, arriving from New York.
Image en noir et blanc, Hélène Keller, robe fleurie, cheveux attachés, se tient bien droite, paupières baissées. À côté d'elle, son institutrice, corpulente, les cheveux gris, lui tient les mains et s'adresse au public.
Elle était sourde, aveugle et muette depuis ses 19 mois à cause d'une maladie. Elle n'avait aucun moyen de communiquer à part quelques signes qu'elle avait mis au point. Le signe poussé pour partir, le signe tiré pour venir, etc.
Hélène Keller a posé sa main gauche sur le visage de son institutrice.
Elle avait remarqué que nous n'utilisions pas les mains pour parler. Et je lui ai montré comment nous parlions avec notre bouche en mettant ses mains sur mon visage. Elle sentit les vibrations des mots parlés.
Son index sur les lèvres de celle-ci, son majeur sur ses narines et son pouce sur sa gorge.
Immédiatement, elle épela. Je veux parler avec ma bouche. Cela se révéla impossible. Mais après quelques tentatives, nous avons découvert qu'en plaçant ses mains dans cette position, le pouce sur la gorge, l'index sur les lèvres.
Gros plan sur Anne Sullivan. Elle a les cheveux gris. Et on voit qu'elle est aveugle, qu'elle voit très mal.
Elle pouvait sentir les vibrations de vos parents.
Voilà un document extraordinaire qu'on a trouvé sur Internet. Extraordinaire ce document qu'on vient de décrire, qu'Inès et Charlotte vous ont décrit, avec la traduction des paroles d'Anne Mansfield Sullivan. Donc à gauche, dans ce plan en noir et blanc, on voit Helen Keller, et à droite, Anne Mansfield Sullivan, qui explique comment elle a réussi à faire parler cette jeune femme que je vois là sous mes yeux, Helen Keller, qui, on vient de le dire, à 19 mois, à la suite d'une maladie, est devenue sourde et aveugle et était devenue véritablement une enfant sauvage. Et Anne Sullivan a réussi, après bien des tâtonnements, à lui faire comprendre, à communiquer avec elle de cette façon et à la faire parler par la suite, lui apprendre à écrire, à taper à la machine. Elle a fait des études formidables, elle est devenue diplômée des universités et elle a eu une vie extraordinaire puisque après la Deuxième Guerre mondiale, on la voit avec le président Eisenhower, on la voit ensuite avec le président Kennedy, et elle meurt en 1968. C'était un grand personnage public, une star presque de musical, on va le voir, aux États-Unis. Mais au départ, je l'ai dit, j'ai trouvé son nom en lisant Howard Zinn. Ah, on se dit, mais qu'est-ce que Howard Zinn, évidemment, aime à mettre en scène des gens progressistes, des gens qui s'opposent. Eh bien, c'était le cas d'Helen Keller. Helen Keller, dans sa jeunesse, surtout, avait des idées progressistes, des idées socialistes, des idées féministes. Elle a été une militante féministe. Elle était par exemple, partisane du contrôle des naissances. Et ça, aujourd'hui, si son nom dit encore quelque chose aux États-Unis, son nom, évidemment, dit quelque chose dans le milieu de la surdité, dans le milieu de la cécité, toujours aujourd'hui, mais si son personnage dit encore quelque chose aux États-Unis, ce côté, évidemment, progressiste a été soigneusement gommé. Et c'est ça qui nous a intéressés et qui, j'espère, vous intéressera d'ici à 16h dans la basse. J'y suis, Helen Keller, sourde, muette et rebelle.
W. musée qui est en étage, donc pas forcément facile d'accès. Alors ça lui donne un caractère un peu confidentiel. Voilà, c'est cette pièce, cette grande pièce, donc avec des collections qui sont dévolues à l'histoire des aveugles. Il y a ce tempo allumé dans les vitrines pour faire ressortir le relief. Le mobilier est un mobilier qui a été créé spécialement pour cette pièce et qui date de 1907 et qui n'a pas changé. Et donc ça donne à cet endroit une atmosphère très particulière, un petit peu comme un cabinet d'amateur, d'autant que ce sont des objets qui sont rares et des curiosités, on va dire. Donc le premier ouvrage de Valentin Huy dans lequel il explique sa méthode, l'essai sur l'éducation des aveugles, une lettre qu'il a écrite avec un système qui reproduisait l'écriture des voyants, ce globe qui est ici, cet immense globe qui a été fabriqué spécialement pour les classes de géographie de l'Institut des jeunes aveugles.
Un globe en relief ?
En relief, tout est en relief, oui bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais tout est en relief, oui, pour pouvoir être touché. On a aussi des objets réalisés par des aveugles, des sculptures, puisque la sculpture est un art du toucher, des gravures qui représentent des aveugles. Pour parler de cette histoire qui est une longue histoire, c'est une histoire transversale qui a à voir avec l'histoire de la pauvreté, de la bienfaisance, des préjugés aussi à l'égard des personnes aveugles. Et puis il y a une vitrine qui est consacrée donc aux aveugles sourds, ces enfants atteints de la triple infirmité, on disait, cécité, surdité et mutisme. Et cette vitrine, elle présente un portrait d'Helen Keller, cette femme américaine qui était née à Alabama, qui avait perdu la vue et l'ouïe bébé à la suite d'une maladie, peut-être la scarlatine, on ne sait pas très bien. Et c'est un beau portrait, elle était belle. C'est un bas-relief avec une technique un petit peu comme ce qu'on faisait à la Renaissance, le schiacciato, c'est-à-dire que le visage se détache en relief. C'est un profil, elle est en buste, et à la fois elle se détache, mais elle rentre un petit peu dans la représentation. Ça date de 1907.
Helen Keller avait 27 ans.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le bas-relief ?
Be blind is to see the bright side of the life. Ça veut dire être aveugle, c'est voir le côté lumineux de la vie. Donc c'est une phrase d'Helen Keller. Alors c'est vrai qu'elle a beaucoup écrit. Helen Keller, donc... était sortie de ce qu'elle a appelé dans sa biographie, puisqu'elle a écrit l'histoire de sa vie, le « no world », le « non-monde », grâce à une préceptrice qui s'appelait Anne Sullivan. Elle avait imaginé une méthode pour qu'elle comprenne que, en fait, à chaque chose correspond un mot. C'est un langage tactile, de signes tactiles. C'était, comment dire, dessiné sur la paume de la main. Et puis, comme c'était une petite fille très, très intelligente, elle va apprendre très vite. Ensuite, le braille, et elle ira à l'université et sera la première femme diplômée, en fait, handicapée diplômée au monde.
Voilà, on est à l'association Valentin à Huy à Paris. Et vous avez compris qu'on est dans une institution pour aveugles. Mais là, il y a un cas très particulier. Helen Keller faisait partie de ces cas très particuliers d'aveugles et sourds. Je dis sourd et muette, mais c'était sourde et aveugle. Et donc, dans sa petite enfance, elle était également mutique. Et grâce à cette préceptrice, Anne Sullivan, eh bien, voilà, on a compris, elle a peu à peu réussi à communiquer. par ce langage tactile sur la peau, sur les mains. On voit dans les documents qu'on trouve assez facilement sur Internet comment elle communiquait par pression des mains, comme ça, par pression des doigts, avec sa préceptrice. Et puis comment, par la suite, elle a réussi à parler. Ça, c'est le phénomène le plus merveilleux et le plus étonnant. Comment Anne Sullivan prenait la main d'Hélène Keller, la posait sur son visage, à elle, Anne Sullivan, de façon à ce que, avec sa main, Hélène suive les mouvements du visage d'Anne, vous comprenez ? Et quand elle parlait, et de cette façon, elle pouvait enregistrer par la main les mouvements du visage et réussir peu à peu de cette façon à parler. Il y avait un autre mouvement, c'était de mettre le pouce, qu'Hélène mette son pouce sous sur le menton, sur la gorge d'Anne Sullivan quand elle parlait, et de cette façon, elle pouvait comprendre, saisir, intérioriser les vibrations, et elle a pu émettre des sons, et peu à peu, à parler. Alors, tout ça avait donné lieu à un film qui s'appelle Miracle en Alabama, qui était sorti, un film de Sean Penn, qui était sorti en 1962. Peut-être l'avez-vous vu, mais comme c'est déjà ancien, c'est peut-être un peu oublié. On continue cette visite avec l'érudite Noël Roy.
Voilà, s'ouvrez le couloir. Allez-y. Voilà, je suis dans la petite bibliothèque de l'Institut Valentin à Huy, consacrée aux personnes aveugles et malvoyantes. Et il y a quelques archives sur Hélène Keller, sur la vie d'Hélène Keller, et notamment un petit livre de Erglena qui s'appelle Hélène Keller. Éducation d'une jeune fille aveugle, sourde et muette. La presse des États-Unis s'est beaucoup occupée ces dernières années d'Hélène Keller. Jeune fille sourde, aveugle et muette que l'éducation a réussi à développer d'une façon tout à fait surprenante. Hélène Keller, actuellement âgée de 14 ans, s'exprime par la parole, perçoit par le toucher la parole des autres et rédige dans un anglais correct des lettres écrites en caractères fermes et distincts. Elle apprend le latin et le français et a récité dernièrement devant plusieurs personnes le Psalm of Life de Longfellow à la satisfaction générale. Nous avons reproduit au début de ces pages une photographie que M. Hitz a bien voulu nous envoyer. Elle représente Hélène Keller qui, la main sur la bouche de son institutrice, reçoit l'enseignement qui lui est donné. Effectivement, c'est une belle photo de profil où Anne Sullivan, l'institutrice, est habillée en noir, un livre ouvert sur les genoux. Hélène Keller est face à elle, habillée dans une belle robe à volant, blanche, les cheveux détachés, et elle pose sa main gauche sur les lèvres de son institutrice, qui lui lit le livre qu'elle a sur les genoux. Hélène Keller, fille aînée du major Arthur Keller, est née en 1880 à Tuscumbia, comté de Colbert, dans l'Alabama. Son arrière-grand-père, Caspar Keller, était un Suisse qui alla s'établir en Amérique. Autant qu'il est possible de se le rappeler, elle possédait à sa naissance toutes les facultés d'une enfant bien portante. Mais à l'âge de 18 mois, elle tomba dangereusement malade et lorsqu'elle fut guérie, on s'aperçut qu'elle était complètement sourde et aveugle. En 1887, elle fut placée sous la direction de Miss Sullivan, qui avait été un des professeurs les plus distingués de l'Institut des aveugles de Perkins School à Boston. Par les soins fidèles de cette institutrice, l'intelligence d'Hélène Keller se développa avec une grande rapidité.
One day, she takes Helen to the water pump, she gets the water running, she puts Helen's hand under the water, and then she simultaneously also signs water into Helen's hand, and Helen then learns the connection between the symbols that she is making into the child's hand and the word that it is. From then on, her vocabulary just expanded at a staggering rate. Anne was by far the most important thing in Helen Keller's life.
C'est une boîte à ronrons. Un chat qui ronronne, ça vibre. Donc je pense que ça peut être très intéressant pour une personne sourde aveugle. Et c'est doux, au toucher.
Sandrine Schwartz, vous êtes linguiste et vous étudiez la question du langage chez les sourds aveugles.
Plus particulièrement la langue des signes tactile, qui est une variante de la langue des signes utilisée par les personnes sourdes bienvoyantes et qui est utilisée par des personnes qui sont sourdes aveugles, donc pour la comprendre. Elles posent leurs mains sur les mains de leur interlocuteur qui s'exprime en langue des signes.
Voilà, vous avez compris. On a voulu aller plus loin, essayer de comprendre. Et on est avec Sandrine Schwartz, et qui est en train d'écrire un livre sur l'histoire des sourds aveugles. On la rencontre chez elle, à Paris, dans le 19e arrondissement.
Alors, Hélène Keller, c'est une petite fille qui est née en 1880 et qui a grandi de manière parfaitement... normal jusqu'à ce qu'à l'âge de 18 ou 19 mois, une maladie la frappe et qu'elle devienne sourde aveugle. Donc à partir de ce moment-là, ça a été très difficile pour elle et sa famille qui ont essayé de trouver une solution pour la scolariser. Et sa mère a eu vent d'un écrit qui a été fait par Charles Dickens, qui s'appelle American Notes, où il parlait d'une sourde aveugle qui s'appelle Laura Bridgman et qui a été éduquée à Boston. Et donc, ils ont contacté l'école de Boston, qui, eux, ont formé une enseignante pour intervenir auprès d'Hélène Keller, qui, à ce moment-là, avait 7 ans. Et c'est une enseignante qui n'est vraiment pas anodine, c'est Anne Sullivan, une personne qui a eu un rôle très, très important pour Hélène Keller. Alors, Annie Sullivan, c'était une petite fille aussi qui a une destinée assez extraordinaire. Elle est née malvoyante, dans une famille très pauvre, avec un frère malade. Sa mère est morte très tôt, son père, 2 ans après, a abandonné ses enfants. Donc Annie Sullivan et son petit frère ont été mis dans un orphelinat où le petit frère est décédé assez rapidement et Annie Sullivan a demandé à corps et à cri à recevoir une éducation. Malgré sa malvoyance, elle voulait apprendre des choses. Et elle a été donc mise dans une école d'aveugles, l'école de Boston, où elle a appris à lire avec les doigts. Et ensuite, elle a été opérée et a retrouvé... une certaine acuité visuelle qui lui permettait de lire des caractères d'imprimerie, mais pas très longtemps. Et ça la fatiguait énormément. Elle a donc décidé de devenir enseignante à son tour pour des enfants aveugles. Elle est donc partie dans la famille d'Hélène Keller et elle a commencé son éducation. Alors au début, la difficulté, ça a été un petit peu de maîtriser Hélène Keller, si on peut dire, parce qu'elle était très colérique, elle ne comprenait pas forcément qu'il y avait une certaine attitude à avoir à table, une certaine attitude à avoir envers les personnes qui l'entouraient. Donc la première chose, c'est qu'Annie Sullivan a demandé à être isolée de la famille et qu'Hélène Keller ne soit qu'avec elle pour essayer de lui enseigner un maximum de choses. Quant à la langue, la manière dont elle y a eu accès, ça a été par une immersion totale, c'est-à-dire qu'Annie Sullivan n'a eu de cesse de montrer des objets et d'épeler leur nom dans la main d'Hélène Keller, de montrer des objets, d'épeler à nouveau le nom, jusqu'à ce qu'un jour, un mois après son arrivée, Hélène Keller ait le déclic dans la scène mythique où elle active une pompe, une espèce de fontaine, où de l'eau sort, où elle met la main d'Hélène Keller sous la pompe, et elle épelle « eau », Water en anglais, et à ce moment-là, Hélène a le déclic. Et à partir de ce moment-là, elle n'a eu de cesse que de demander le nom de toutes les choses qui l'entouraient.
It is not blindness or deafness that brings me my death.
Ce n'est pas la cécité ni la surdité qui m'ont apporté mes heures les plus sombres.
It is the acute disappointment.
Mais la déception de ne pouvoir parler normalement. Longuement, j'ai pensé combien j'aurais pu mieux faire si j'avais su apprendre à parler normalement. Mais au sortir de cette triste expérience, j'ai pleinement compris l'importance des efforts humains, des ambitions et la capacité infinie de l'espoir.
Voilà la voix d'Hélène Keller, c'est évidemment des documents extraordinaires, bouleversants, quand on songe que elle avait complètement perdu l'usage de la parole, suite évidemment à cette double infirmité qui la frappait, de la surdité et de la cécité. Il faut dire, on en parlera plus loin, mais elle a été un phénomène national aux États-Unis et même mondial. On la verra au Japon, au moment d'Hiroshima, on la verra voyager à travers le monde. Et elle était un peu aussi une attraction. Hein, elle faisait des soirées avec un orchestre qui la précédait et elle racontait son histoire. Mais ce qui ne l'empêchait pas, c'était sa façon de vivre et d'exister. Et à la demande, évidemment, d'un public stupéfait, étonné et bouleversé, bien sûr. Mais ça n'empêchait pas, en même temps, d'être une femme progressiste, comme on va le voir un peu plus loin. Là, on rencontre Jacques Souriot, qu'on rencontre à Poitiers, avec Inès Leroy, et qui est l'ancien directeur de l'école pour sourds et aveugles de Poitiers.
Tout le combat d'Anne Sullivan, c'est qu'elle se trouve face à une enfant sauvage, et il faut arriver à lui faire comprendre que toute chose a un nom. Mmh. Ce moment se passe comme un déclic,
ouais,
à travers le moment où on lui fait couler de l'eau sur une des mains et sur l'autre, ouais, la main laissée libre, on lui écrit le mot « eau ». Est-ce que pour vous, ça s'est vraiment passé comme ça ?
Que ça a été un grand moment, je peux le penser, parce que ça a été rapporté par les deux, je crois. Enfin, puis... Mais la façon dont on décrit l'événement peut prêter à discussion, parce que là, ce que vous avez dit, c'est que Anne Sullivan a enfin réussi à lui faire comprendre que les choses avaient un nom. Or, avant elle, il y avait d'autres gens dans sa vie, en particulier la fille de la cuisinière, Martha Washington, qui était une compagne de jeu. Et elles avaient trouvé des gestes entre elles. C'est-à-dire qu'elles avaient construit une langue des signes à elles, des premiers signes. Hein.
Après, Hélène Keller, dans son livre « Histoire de ma vie », elle raconte aussi qu'elle savait communiquer sur plusieurs choses avec sa mère. Par exemple, oui, elle faisait le mime de couper du pain, voilà, et de beurrer des tranches, voilà, pour dire qu'elle voulait du pain.
Voilà. Donc, dire qu'elle n'avait aucune communication avant Anne Sullivan, c'est ce qu'on tend à penser. C'est une erreur. Il y avait déjà des choses qui se passaient du point de vue de la communication avant. Et je crois, enfin je me souviens, il faudrait que je retrouve, mais que Hélène Keller disait qu'avec Martha, c'était bien parce qu'elle pouvait se comprendre. L'autre compagnon de jeu, c'était le chien. Mais le chien, lui... Il ne savait pas faire de gestes. Et alors, ça montre aussi une dimension de l'être humain en général. C'est que non seulement un être humain est capable d'apprendre la langue de ses parents, mais il est aussi capable de construire une langue. Et ça a été décrit par contre de façon beaucoup plus précise chez les enfants sourds qui sont nés dans des familles ou dans des environnements où il n'y a aucun sourd. Et qui développent des langues des signes locales. Et ce qui est d'abord un mime, c'est-à-dire une espèce de reproduction de ce qu'on vit quand on produit l'action, devient un code partagé, et en ajoutant un geste à l'autre, on finit par constituer une espèce de vocabulaire, un langage local, qui peut être relativement important en termes de dimension et d'efficacité de communication. Donc en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est surtout que Anne Sullivan et Hélène Keller ont enfin trouvé leur terrain d'entente. C'est-à-dire que c'est comme si Hélène Keller avait compris « Ah, pour toi, le nom des choses, c'est quand on les épelle dans la main. C'est pas comme faisait Martha ou pas comme faisait maman. » On pourrait dire ça comme ça.
En fait, Anne Sullivan, pour Hélène Keller, elle lui a permis de passer du langage
local
au langage universel, qui était beaucoup plus complexe parce qu'il avait une histoire beaucoup plus longue.
Oui, voilà, elle l'a amené au langage de la culture, la langue anglaise, donc on pourrait dire ça comme ça.
Et Anne Sullivan, elle enseigne pas la langue des signes à Hélène, elle enseigne donc l'alphabet manuel, elle épelle chaque mot lettre par lettre.
Oui, les lettres de l'alphabet manuel sont des positions de la main. Si on ferme le poing, on a la lettre A. Si j'ouvre la main avec les doigts serrés et que je mets mon pouce
collé à la paume,
je vais avoir la lettre B. Si je fais un rond avec mon pouce et mon index, j'ai la lettre O. C'est la main qui prend, pour chaque lettre de l'alphabet, ça prend une forme qui correspond à cette lettre.
Et c'est comme ça que Hélène, touchant la main de son institutrice qui prenait des formes,
pouvait sentir les lettres
qui formaient des mots.
Voilà, Jacques Souriau à Poitiers, c'est très beau cette histoire de passer du local au global comme ça, hein, du langage intime à un langage universel. Et ça nous renvoie à notre capacité à inventer des langages. Vous connaissez, c'est ce qui arrive à des jumeaux parfois, cette création de langage des enfants jumeaux qui créent véritablement leur langue, mais qui parfois arrivent à se couper du reste du monde et même de leurs parents. Mais ensuite, il y a un passage au langage général, à la langue commune, du vernaculaire au véhiculaire. Et la question qu'on se pose en écoutant ces observateurs, ces spécialistes, c'est est-ce que c'était le seul cas ? On a l'impression qu'évidemment Hélène Keller était seule au monde à être dans cette situation. Voilà la réponse de Sandrine Schwartz.
Alors c'est une histoire aussi qui n'est pas très commune, c'est qu'à l'âge de 10 ans, elle a eu vent qu'il existait en Europe, en Norvège plus exactement, une petite fille sourde aveugle qui s'appelle Ragnhild Kata, qui elle-même avait été éduquée uniquement par la parole, qui n'avait pas reçu d'éducation en langue des signes. Hélène Keller a souhaité, à son instar, apprendre à parler. Et autour d'elle, il y avait un environnement suffisamment stimulant et suffisamment argenté pour lui permettre d'accéder à cet apprentissage. Et au bout de, je crois, une dizaine, 11 ou 12 leçons, Hélène Keller a été en mesure de prononcer sa première phrase, qui était « Je ne suis plus muette », en anglais « I am not dumb no more ». Et à partir de là, elle a même délaissé tout ce qui était alphabet manuel en émission. Par contre, en réception, elle avait toujours besoin que ça soit tactile. Et elle a poursuivi sa scolarité. Elle a réussi, à l'âge de 20 ans, je crois, à rentrer à l'école de Radcliffe, une école très prestigieuse, qu'on ne rentre que sur concours. Et elle a suivi sa scolarité là-bas avec l'aide d'Anne Sullivan, qui lui servait d'interprète, qui lui traduisait tous ses cours. Et elle en est sortie diplômée avec un doctorat en allemand, en anglais. Et d'autre part, le français, le latin et le grec étaient des langues qu'elle lisait avec facilité.
Ça veut dire que Anne Sullivan lui traduisait dans la main, grâce à l'alphabet tactile, tous les cours oraux ?
C'est ça. Annie Sullivan a été à la fois son enseignante quand elle était petite et elle a été son interprète par la suite. Elle a été la compagne pratiquement de toute sa vie.
Mais on peut traduire dans la main par l'alphabet manuel aussi vite que le cours du professeur oral ?
Alors ça, de manière évidente, non. Donc ça devait forcément être des résumés qui devaient être compensés ensuite par des lectures, traduits en braille ou alors traduits par quelqu'un dans la main pour elle. Et on peut dire qu'Annie Sullivan, ça a été une des premières interprètes scolaires, si on peut dire, d'une élève sourde aveugle, qui plus est, en intégration. C'est-à-dire que Hélène Keller était la seule sourde aveugle de sa classe. Tous les autres étudiants étaient entendants et voyants. C'est à contrario de l'éducation spécialisée, où là on a des classes de personnes qui sont que sourdes, ou que aveugles, ou que sourdes aveugles.
I lost my eyes in the blacksmith shop in the year of 56, while dusting out a tea planche which was out of fix. It bounded from the tongs and there concealed my doom. I am a blind fiddler and far from my home. I've been to San Francisco, I've been to Dr. Lane. He operated on one of my eyes, but nothing could he gain. He told me that I'd never see, and it's no use to mourn. I am a blind fiddler and far from my home. I have a wife and three little ones depending now on me to share all my troubles, whatever they may be. I hope that they'll be careful while I'm compelled to roam. I am a blind fiddler and far from my home.
Hélène Keller, donc, que nous essayons peu à peu de cerner avec cette cette infirmité, cette double infirmité transformée en manière de vie, de vivre, de penser. De penser, je le disais en commençant, elle a été une femme progressiste, puisqu'elle est citée, j'ai découvert son nom, citée par Howard Zinn. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile. Si on peut trouver, vous avez vu des spécialistes très éclairés et passionnants sur la vie politique et les opinions et les engagements d'Hélène Keller, c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est la partie gommée de son existence. Alors, avec Inès, on a trouvé Kim Nielsen, qui est une Américaine, et qui s'est penchée sur cet aspect de la vie d'Hélène Keller, et qui est un auteur d'un livre sur la vie radicale d'Hélène Keller. Quelle a été la vie politique d'Hélène Keller ?
I'm so glad you're interested. Most Americans also don't know about Helen Keller's political life.
Je suis très content que vous soyez intéressé par ça parce que beaucoup d'États-Unis aussi ne connaissent pas la vie politique d'Helen Keller.
She first became politically active when she was in college in Boston at the turn of the century.
Elle a commencé son engagement politique pendant sa scolarité à Boston au tournant du siècle.
There she read writers and socialists from all over the world, she began to be able to read and write in several languages. She read newspapers constantly from all over the world.
Et elle a commencé à lire des ouvrages de socialistes, de politiciens, du monde entier. Elle a commencé à apprendre à lire dans plusieurs langues, à tel point qu'elle suivait la presse dans plusieurs langues.
Mais elle a lu Marx et Engels en allemand, en braille.
Yes, she did. She read Marx and Engels in German.
Oui, elle lisait Marx et Engels dans le texte.
And she traveled Boston in the United States and was very interested in working people and people who lived in poverty.
Elle a aussi voyagé à Boston et à travers tous les États-Unis. À chaque fois, elle était intéressée par les conditions de vie des populations laborieuses.
Elle était inscrite au Parti socialiste.
Yes, she was. She understood it as a way to make the nation more democratic by making sure that there weren't huge differentials in income in the United States.
Et pour elle, c'était une manière de voir comment rendre la nation plus démocrate en diminuant les écarts de richesse entre les citoyens.
En réduisant les inégalités.
Yes.
Elle était féministe, elle soutenait les suffragettes américaines.
Yes, she was a suffragist and was very active in the National Women's Party, which was one of the more radical suffrage organizations in the United States.
Oui, elle était membre actif du National Women's Party, le Parti national des femmes, qui était à la pointe de cette mobilisation dans les États-Unis.
Keller also was a founding member of the American Civil Liberties Union, which promoted civil rights. And she was also a funder for the NAACP, which was promoting racial equality.
Elle était aussi un des membres fondateurs de ACLU, c'est-à-dire le syndicat pour les libertés publiques aux États-Unis, et aussi elle était à la pointe des premiers mouvements pour la lutte pour l'égalité raciale.
Elle luttait aussi pour le contrôle des naissances.
She was always in favor of birth control. She changed her mind, I think, throughout her very long 80-some-year life about what that would mean for women with disabilities. But she was very much in favor of women's rights and birth control.
Oui, oui, elle était pour le contrôle des naissances, pour le choix et le contrôle des naissances, même si elle a changé un peu d'avis à la fin de sa vie sur si c'était judicieux ou pas pour les femmes handicapées.
C'est quand même extraordinaire parce que on la voit parlant avec le président Eisenhower, on la voit parlant avec le président Kennedy, et en même temps, elle était ce que vous nous dites là, c'est-à-dire une femme très progressiste, on pourrait dire une femme rouge, une rouge.
Yes, it is. And certainly, we know that the FBI was very interested in her throughout the 19-teens, 20s and 30s.
Et d'ailleurs, on sait que le FBI suivait très attentivement toutes ses activités entre les années 1910 et 1930.
C'est-à-dire
after the 1920s, she, I believe, held her beliefs still very firmly, but she kept them more quiet. As many Americans, she had been frightened by the Red Scare and somewhat silenced by the Red Scare.
Après les années 20, elle a gardé ses convictions, mais je pense qu'elle les a exprimées beaucoup moins ouvertement, comme beaucoup des gens à l'époque qui avaient connu la peur de la Red Scare, la répression contre la peur rouge.
Mais est-ce qu'elle était très influente dans ces mouvements en général ou bien simplement elle y participait?
She was a visible member because she always garnered press, much media attention.
Elle était un membre visible, disons, parce qu'elle attirait l'attention des médias par sa simple présence.
It is the adult disappointment in not being able to speak normally, longingly absent, how much more good I might have done if I had only acquired my children's speech, but...
Kim, je sais bien que ce n'est pas tout à fait votre domaine de recherche, puisque vous vous intéressez à la vie politique d'Hélène Keller et ses idées politiques. Mais on est très intrigué par sa vie sentimentale et sa vie amoureuse. Est-ce qu'elle a été mariée? Est-ce qu'elle a eu une vie riche de ce côté-là?
Yes, I think she was a very sentimental person. She never married, although she was once engaged. That was at first secret, and when it became public, her family basically drove him away.
C'était quelqu'un de très sentimental, et même s'il n'a jamais été marié, elle a été à un moment fiancée, et c'était secret, ses fiançailles, et quand c'est devenu public, la famille d'Hélène Keller a littéralement chassé le prétendant.
At this point in time, many people believed it was simply impossible and terrible for a woman with a disability to marry and have children.
À l'époque, c'était incompréhensible, inacceptable qu'une femme handicapée puisse se marier et avoir des enfants.
She loved to travel. She always had many dear friends. Her favorite drink was scotch.
Elle aimait voyager. Elle aimait lire. Sa boisson favorite était le scotch. Elle avait beaucoup d'amis.
I learned to drink scotch for Helen Keller.
C'est Helen Keller qui m'a fait aimer boire, apprendre à boire du scotch.
Kim, vous êtes historienne, vous travaillez sur ce sujet, Helen Keller. Qu'est-ce qu'il reste d'elle dans la mémoire de vos compatriotes américains?
She is still something that the average American knows about. People remember her.
Les gens la connaissent encore, les Américains moyens se souviennent d'elle.
Ce que vous avez mis en lumière, c'est-à-dire sa vie politique, ses engagements politiques, ça c'est quelque chose qui est complètement gommé.
I think that because she was on the left, her political life has been erased. I think it's also been erased because she was a woman with a disability, and for many people it's hard to imagine a woman with a disability having such strong political views and being active.
Oui, cet aspect politique a été effacé peu à peu. D'abord parce qu'elle était une femme de gauche, et c'est cet aspect-là qui a été effacé. Et puis aussi, pour beaucoup de gens, c'est l'idée qu'une femme handicapée puisse avoir des idées, puisse être engagée à ce point, est quelque chose de tout à fait incompréhensible, inimaginable.
Voilà, merci à tous et à toutes. Il y a des précisions encore qu'on pourrait apporter sur les engagements d'Hélène Keller. Par exemple, elle a soutenu la République espagnole. Elle avait écrit un article en 1938 critiquant l'embargo sur les armes aux républicains. Et elle était suivie de façon permanente par les services secrets américains. Mais c'est une des choses dont nous parlerons encore demain au sujet d'Hélène Keller et au sujet de ceux qui vivent ce handicap, sourds et aveugle à la fois. C'était un reportage d'Inès Léraud. Merci à Françoise Berge, Zina Végan, Jacques Souriau, Noël Roy du musée Valentin Huy. Sandrine Schwartz et Kim Nielsen. À lire Sourde, muette et aveugle, l'histoire de ma vie de Hélène Keller, paru en 2001 aux éditions Payot. Et puis, 24 et 25 septembre prochain, la pièce de théâtre adaptée du film d'Arthur Penn, et non pas Sean Penn comme j'ai dit tout à l'heure, Arthur Penn sur la vie d'Hélène Keller, Miracle en Alabama à Paris, au centre de ressources Théâtre et Handicap, rue de Charenton à Paris. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, là-bas.org, et nous faire des commentaires. À la technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Fabien Laléou, c'est Bertrand Chomton et Franck Adhérer qui ont réalisé cette émission à cité de Marina Touyez, et Grigory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Johanna de Tabac Info Service, je vous écoute.
Oui, bonjour. Je vous appelle car c'est bientôt mon anniversaire et j'ai décidé d'en profiter pour arrêter de fumer. Le problème, c'est que je l'ai déjà annoncé à tous mes proches et j'ai peur de pas m'y tenir.
Vous avez bien fait car d'un côté, ça vous engage à arrêter.
Oui, mais je suis pas sûr d'avoir assez de volonté.
En fait, ce qui compte avant tout, ce sont vos motivations. Mais si vous voulez, nous pouvons faire un point sur celle-ci.
Ah oui, pourquoi pas.
Vous voulez arrêter de fumer ? Appelez Tabac Info Service au 39 89 et bénéficiez des conseils personnalisés d'un tabacologue. 39 89, un service de l'INPES et du ministère de la Santé. 15 centimes la minute.
Vous voulez-vous aussi faire partie du premier réseau social d'assurance ? Zéro tracas, zéro blabla. Pour fêter votre arrivée et pour toute souscription d'une assurance santé MMA entre le 29 août et le 29 octobre 2011, MMA vous offre jusqu'à 150 euros sur la première année de cotisation. Alors, c'est qui les nouveaux clients ? Offre soumise à condition.
Pile poil, 16h sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Jean-Louis Jerguerin demande le report de l'arrêt que doit rendre la Cour d'appel de Paris demain dans l'affaire Clearstream. Dans une lettre, l'avocat de l'ancien vice-président de ADS, considéré comme le corbeau dans cette affaire de faux listing bancaire, fait état d'informations qui mettent en cause Alexandre Djouri. Il fait référence au livre de Pierre Péan, La République des Mallettes, qui sort demain. Il y est question donc du rôle qu'aurait tenu l'homme d'affaires dans le dossier Clearstream. Pour Jean-Louis Jerguerin, le contenu de l'ouvrage met en lumière des zones d'ombre dans cette affaire, c'est pourquoi il demande le report du délibéré de demain. Le procès des emplois présumés fictifs à la mairie de Paris, c'est au tour de Marc Blondel d'être interrogé cet après-midi par le tribunal. L'ancien secrétaire général de Force ouvrière fait partie des coprévenus de Jacques Chirac. Il est poursuivi pour recel de détournement de fonds publics. Marc Blondel doit répondre du salaire de son garde du corps par la mairie de Paris, payé par la mairie de Paris entre 83 et 88. C'est parce que mon prédécesseur avait fait l'objet d'un attentat. Il n'y a rien d'illégal là-dedans, dit-il. Il a ajouté « Je n'ai pas mis le doigt dans la confiture ». Wall Street suit la tendance européenne. La bourse de New York a ouvert à l'équilibre cet après-midi. La possible faillite de la Grèce continue malgré tout de susciter les craintes. Les valeurs bancaires françaises sont malgré tout repassées elles aussi dans le vert cet après-midi. Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et le grec Papandréou doivent en discuter cet après-midi lors d'une téléconférence. Une chose est sûre, cette crise dans la zone euro, beaucoup d'industriels redoutent qu'elle ait des conséquences sur leur activité. Référence avec ce qui s'est passé en 2008 lors de la chute de Lehman Brothers. Ce matin, l'ouverture du salon de l'automobile à Francfort, Philippe Varin, le patron de Peugeot, a mis en garde contre des lendemains difficiles. Il va falloir accélérer les réductions de coûts, dit-il, et sans doute avoir recours au chômage partiel. Écoutez la réaction de Julien Vostin, délégué central de la CGT chez PSA à Mulhouse, qui regroupe 10 000 salariés.
Pour nous, c'est vraiment une déclaration de guerre contre l'emploi. Parce que même s'il n'y a rien de chiffré pour le moment, bah, il s'agit de dire aux salariés que si les ventes sont en baisse, et ben ça sera encore à eux d'en faire les frais, ça sera des suppressions d'emplois pour les intérimaires, pour les salariés sous-traitants. Ben, pour nous, c'est inacceptable et c'est hors de question. Bien évidemment, les salariés, ben, ils se posent des questions, ils se demandent qu'est-ce qui va encore se passer. Mais vous savez, depuis le début de la crise, depuis fin 2008, on a beaucoup entendu qu'il fallait être plus compétitif, qu'il fallait être plus flexible, plus productif. Le résultat, c'est quand même toujours des effectifs qui baissent, c'est toujours des conditions de travail qui se dégradent. Donc j'espère que cette inquiétude-là, elle se transformera en ras-le-bol général, parce qu'il y en a assez de payer pour que les actionnaires continuent à s'en mettre dans les poches.
Des propos recueillis par Patrick Janton de France Bleu Belfort, Montbéliard. Les talibans ont mené plusieurs attaques aujourd'hui à Kaboul en Afghanistan. Ils ont tiré à la roquette sur l'ambassade des États-Unis, mais aussi sur plusieurs autres représentations diplomatiques. Selon le ministère de la Santé afghan, il y aurait un mort et 16 blessés, tous civils. Enfin, on l'a appris cet après-midi, une femme de 41 ans et son fils de 9 ans sont morts hier soir à l'échelle dans l'Aisne. Ils ont été écrasés par une plaque de béton de 2 tonnes alors qu'ils passaient à proximité d'un silo en travaux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Cette semaine, Isabelle Dordain donne carte blanche à Hubert Félix Thiéfen.
Avec nos bidons en fer blanc, on descendait chercher le lait.
Avec Dominique A, JP Nataf et Armand Méliès.
Prends mon pion dans ton circuit, Garbo XW Machine.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission demain, à partir de 18h, devant la porte B de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. France Inter.
La différence.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous maintenant.
Bonjour Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous, je le pense sincèrement, on répond pas beaucoup aux messages en ce moment, il y a des difficultés avec l'internet visiblement, donc on fera un blow, on fera une réponse plus tard, mais pour l'instant il y a des problèmes de transmission on dirait, en tout cas on sait que vous êtes là, et on vous embrasse de tout cœur, musique toujours, avec David Cadouche, il va nous rejoindre dans 20 minutes à peu près, un peu plus, et David Cadouche est un magnifique jeune pianiste, brillantissime déjà, qui a été révélation dans le cadre des solistes instrumentaux des Victoires de la Musique. Premier album chez Decca, un concert à Toulouse le 22 de ce mois de septembre. Mais pour commencer, réédition, un coffret tout à fait intéressant qui concerne l'orchestre baroque de Freiburg, Fribourg on peut dire, mais c'est le Fribourg allemand, cette petite ville charmante, pleine de vivacité, écologique, en diable, ou de manière angélique, je ne sais pas comment vous voudrez. En tout cas, une ville qui est très 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 vibrante et bouillonnante. Et la musique est une des premières préoccupations là-bas. On a cette belle édition publiée chez Deutsche Harmonia Mundi. Voici par ces dames et ces messieurs de l'orchestre baroque de Fribourg, qui sont vraiment portés au nu par les critiques. Voici le fameux concerto en si mineur pour quatre violons de Vivaldi, qui a été tellement admiré par Jean-Sébastien Bach qu'il l'a transcrit lui-même pour quatre clavecins. Final Allegro. Concerto en si mineur pour quatre violons d'Antonio Vivaldi par les membres de l'orchestre baroque de Freiburg, dirigé par Thomas Engelbrock. Vivaldi encore, mais différent. On a trop dit qu'il écrivait toujours la même chose. Ça n'est pas vrai, puis c'est tellement charmant, même si c'est quelquefois un peu semblable d'une œuvre à l'autre. Mais on parle beaucoup des concertos de Vivaldi, pas assez de ses symphonies, symphonies pour cordes assez peu connues. En voici un petit exemple, Allegro. Elle est en La majeur, cette symphonie.